vous suit.
Voici les titres du journal. Le raccordement au chauffage à distance se poursuit à Monthey. Un nouveau chantier est en cours depuis la semaine dernière sur le bas de l'avenue de la Gare. 6 nouveaux bâtiments seront reliés au thermoréseau d'ici l'été. Le festival des jeunes rencontres des arts de la scène s'est terminé hier soir au Crocheton à Monthey. On vous en parle dans ce journal. Liberté et braderie, l'édition 2022 de la traditionnelle braderie d'aigle mise sur le plaisir de se retrouver du 2 au 4 septembre prochain. Puis à 2 semaines du scrutin sur la Lex Netflix, la dernière campagne des partisans du texte ne plaît pas aux opposants. Selon eux, les informations qui y figurent s'éloignent de la réalité. Et puis enfin en cyclisme, la 75e édition du Tour de Romandie s'est conclue sur une belle performance suisse hier à Villars. Et en basket, l'heure est aux vacances pour Monthey qui n'avait pas les armes pour lutter face à Fribourg Olympique.
Et pour la météo, de plus en plus de nuages pour cet après-midi avant quelques averses isolées en montagne pour ce soir. Et puis pour demain, Météo Suisse nous annonce un temps partiellement ensoleillé. On en parle de la météo à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Quentin Frey. Bonjour Quentin.
Bonjour, bonjour à tous. Le bas de l'avenue de la Gare à Monthey est en travaux. Depuis lundi dernier, des fouilles sont effectuées pour l'extension du thermoréseau de Satom. Afin de réduire les nuisances en termes de circulation, une partie du chantier a lieu de nuit. Ce sera encore le cas jusqu'à fin mai. Le projet, dans son ensemble, sera achevé d'ici fin juillet. Même s'il s'agit du prolongement des conduites du chauffage à distance, ces travaux ne sont pas effectués par Satom directement. Les explications de son directeur, Daniel Baillefard.
On a confié ces travaux à des entreprises de la région spécialisées, notamment des entreprises de génie civil et puis d'installation de chaudronnerie et de contrôle des soudures qui ont vraiment l'habitude de travailler avec Satom puisque on a déjà 450 bâtiments, surfaces commerciales, immeubles déjà raccordés. Et là, on parle de 6 supplémentaires dans ce secteur.
Et ces 6 entités bientôt raccordées au chauffage à distance sont la salle de la gare CFF elle-même, l'hôtel de la gare, la garderie, la Tonkinelle, ainsi que 2 bâtisses privatives. C'était un sujet d'Alexandra Claude.
Des animations destinées et réalisées par des jeunes.
C'était le programme du Festival des Jeunes Rencontres des Arts de la Scène, festival qui s'est terminé hier soir au Crocheton à Monthey. Durant tout le week-end, ils sont nombreux à avoir proposé des animations, des spectacles sur lesquels ils ont travaillé toute l'année en dehors des heures d'école. Ils ont notamment présenté une pièce de théâtre. Marie-France Hendrix, coordinatrice de l'événement, nous en parle.
Ils prennent souvent une pièce de théâtre qui est au Crocheton, dans le programme du Crocheton, et ils s'en inspirent pour donner leur propre interprétation. Donc il y a déjà un travail sur le texte lui-même, et puis après il y a tout le travail de mise en scène et d'adaptation. Et là en l'occurrence c'est assez rigolo parce qu'ils sont 17 jeunes, et comme il n'y a pas 17 comédiens, ils ont décidé du coup de faire 3 poules de comédiens en fonction des 3 actes, et ils se passent le rôle d'un à l'autre. Donc il y a déjà tout un jeu comme ça sur les personnages, sur le fait de se passer des costumes, tout un jeu de scène d'un acte à l'autre pour faire en sorte que la pièce soit cohérente. Donc il y a un vrai travail de recherche aussi de la part des jeunes. Donc vraiment l'idée des jeunes rencontres, c'est de partir de l'envie des jeunes. C'est pas un professionnel qui dit aux jeunes il faut faire ci, il faut faire ça, et qui leur donne des techniques. C'est vraiment partir de leur envie et leur dire pour vous aider à réaliser votre envie, voilà ce qu'on vous propose.
C'était des propos recueillis par Léa Journeau. Pour celles et ceux qui auraient manqué le rendez-vous, il est toujours possible de s'inscrire en vue de l'année prochaine sur Jeunes Rencontres des Arts.
Liberté et braderie, c'est le thème de l'édition 2022 de la braderie d'aigle qui a été dévoilée ce dimanche.
Oui, cet événement festif revient sous son appellation d'origine du 2 au 4 septembre prochain. Exit Festibrad pour cette 85e édition qui proposera des concerts et des animations pour petits et grands, le tout dans un esprit permanent d'évolution. Roberto Fusile est responsable communication de la braderie d'aigle.
On est en perpétuelle réflexion aussi par rapport à nos sociétés locales qui ont des fois un peu de la peine à pouvoir s'investir sur 3 jours. Donc on doit essayer un petit peu de les accompagner, de les motiver à revenir. Alors il y en a une bonne partie qui font partie de la fête et je les remercie. On est en discussion avec d'autres. Donc on essaie un petit peu de constamment essayer de dire qu'est-ce qu'il faut faire, quel type de concert il faut mettre. Où est-ce qu'il faut mettre le Luna Park pour que tout se passe bien, quoi, tout simplement.
Voilà, c'était des propos recueillis par Xavier Bourgeau. On vous rappelle que la 85e édition de la braderie d'aigle se tiendra du 2 au 4 septembre prochain. L'ECA va mettre à disposition certains de ses bâtiments à Puy pour accueillir des réfugiés venant principalement d'Ukraine. Selon l'établissement cantonal d'assurance, environ 80 places seront créées pour le mois de juin. L'occupation temporaire de ces bâtiments, actuellement vides, a été proposée pour faire face à une situation d'urgence par la ville de Puy. L'établissement vaudois d'accueil des migrants coordonnera lui les demandes et les places d'accueil dès le mois de juin et au moins durant toute l'année 2022. L'information diffusée est simplement fausse. C'est ainsi que réagissent des membres du comité référendaire opposés à l'Alex Netflix à propos d'une nouvelle campagne sur les réseaux sociaux. À moins de 2 semaines du dimanche de votation fédérale, les défenseurs de la révision de la loi sur le cinéma ont produit récemment un nouveau clip avec l'auteur et humoriste roman de Marina Rollman. Elle y encourage les gens à voter pour cette révision qui comprend entre autres un prélèvement de 4% sur les bénéfices des plateformes de streaming afin de financer le cinéma suisse. Et elle dit à ce propos: c'est un système qui est déjà mis en place dans énormément de pays dans le monde. On est les derniers à résister, je ne comprends pas très bien. Fin de la citation, une affirmation qui fait réagir le vice-président des Jeunes PLR suisses, Alec Van Barnekoff.
Cette affirmation me dérange car elle est simplement fausse. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la majorité des pays européens n'ont pas du tout de lois similaires à ce que nous avons en Suisse. Parler dans ce cas d'énormément me semble exagéré. D'autant plus que les autres pays dans le monde n'ont pas ce genre de loi. On a fait des recherches et on n'a rien trouvé. Et on n'a jamais eu une seule information que ce genre de mécanisme existe à l'extérieur des frontières de l'Union européenne. Quand vous faites campagne, vous essayez de trouver tous les arguments possibles pour tenter de convaincre la population. Je ne sais pas si c'est une mauvaise information ou si c'est volontaire. Je vais partir du principe que c'est une mauvaise information, je le regrette. Il faudrait faire un erratum, mais ce n'est évidemment pas à moi de leur faire une leçon. Depuis ma modeste position, je peux uniquement constater l'erreur, mais au final, ça s'arrête ici.
Voilà, c'était un sujet de notre correspondant à Berne, Frédéric Nejad de Toulamy. Le roi des monts est de retour chez lui. 3 bouquetins ont été relâchés la semaine dernière sur le Stockhorn dans l'Oberland bernois. Pour le canton de Berne, à l'origine de la démarche, l'objectif est de créer une colonie de 100 à 120 bêtes. Et le fait que les bouquetins soient implantés dans une zone touristique ne pose, semble-t-il, pas de problème. Cela pourrait même donner un petit coup de boost au tourisme local. Et pour la première phase du peuplement, qui durera 3 ans, 30 bêtes seront prélevées dans les colonies d'Aletsch-Sonnenberg-Lunchenthal en Valais, du Briens-Garat et du Schwarzmönch côté bernois. Des bouquetins seront si possible importés de France ou d'Italie pour la deuxième phase. À l'étranger, les téléphones portables du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez et de sa ministre de la Défense Margarita Robles ont fait l'objet d'écoutes illégales et externes. Et selon le gouvernement espagnol, ces piratages informatiques ont été menés via le logiciel israélien Pegasus. Le ministre de la Présidence a affirmé qu'il ne s'agissait pas de suppositions et que ces faits, qui ont eu lieu en 2021, étaient d'une énorme gravité. Il n'a en revanche pas précisé si les autorités espagnoles avaient déjà une piste sur l'origine de cette intervention, et notamment celle émanée d'un pays étranger. Puis la ville russe de Belgorod a été secouée par 2 puissantes explosions la nuit dernière. On ne signale toutefois aucun dommage ni aucune victime dans cette ville proche de la frontière avec l'Ukraine. C'est du moins ce qu'a déclaré le gouverneur de l'endroit selon l'agence de presse russe TASS. Sur Twitter, des séquences vidéo sont partagées au sujet de prétendus drones ukrainiens au-dessus de Belgorod, mais leur authenticité n'a pas encore été confirmée. En cyclisme, un coureur suisse est enfin remonté sur le podium final du Tour de Romandie. Au terme de la dernière étape disputée hier entre Aigle et Villars, Gino Meder en a profité pour se classer deuxième. Le Bernois a gagné 4 rangs lors de ce contre-la-montre en côte de 15,8 km. Il lui a toutefois manqué 50 secondes pour battre le russe Alexander Vlasov qui a fait coup double dans le Chablais. Après cette ultime journée, le bilan sportif de cette 75e édition de la boucle romande était donc positif. Mais Richard Chassot, patron du Tour de Romandie, ne s'arrêtait pas là.
Une édition pour nous, on a eu beaucoup de bonheur en fait. Je pense que c'est un peu le mot qui ressort parce que le climat était bon et ça joue un rôle sur le Romandie. On a peu d'influence là-dessus, mais évidemment quand il est bon, on en prend vraiment plein les yeux, si j'ose dire comme ça, que ce soit les couleurs de la Romandie, les couleurs du peloton, les sourires, les enfants, les familles. Alors évidemment, vacances de Pâques et compagnie, soleil, ça joue un rôle. Et puis aussi pour le sport, parce que le sport a été tous les jours une grande dispute, des meilleures équipes du monde qui se battent pour gagner des étapes sur le Romandie. Donc voilà, on est content que les coureurs se battent à fond et puis bilan final sportif, évidemment, c'est quand même un grand qui gagne, Vlasov, hein, 4e du Giro l'an passé. Il avait plus ou moins dit que s'il venait au Tour de Romandie, c'était pour le gagner. Puis surtout, pour nous, je crois quand même Gino Meder. Ça fait 18 ans qu'on n'a pas eu un Suisse sur un podium. Donc Gino Meder, qui est quand même l'étoile montante, je pense, pour les courses par étapes. Pas loin de gagner un Tour de Romandie, ça donne un bon espoir pour le futur.
Si Richard Chasseau dresse un bilan positif sur le plan sportif, certaines étapes ont laissé à désirer. C'est du moins l'avis de Sébastien Reichenbach, 16e du classement général. Le Martigneurin aurait aimé une course un peu plus ouverte.
J'ai fait un bon tour de Romandie et puis il n'y a eu aucun pépin. C'était vraiment un beau tour de Romandie où j'ai pu me faire plaisir. Malgré le parcours qui est quand même, je pense, un petit peu décevant au niveau des difficultés tout au long de la semaine. Presque des sprints et de chronos, donc c'est vrai que ça, je pense que c'est pour l'organisateur quelque chose à revoir pour l'année prochaine, avoir quelque chose un peu plus, voir des opportunités de différents coureurs et un peu plus de mouvement. Quoi. C'est quand même, je pense, pour le grand public, une course un peu décevante à suivre.
C'était des propos recueillis par notre envoyé spécial sur le Tour de Romandie, Hugo da Custodia. Au terme de cette 75e édition, les organisateurs ont révélé les noms des villes hôtes retenues pour 2023. Le Bouvray en fait notamment partie.
En basket, la fin de saison du BBC Monté-Chablais sonne l'heure du bilan.
Battu 3-0 par Fribourg Olympique en quart de finale des playoffs, les Sangliers sont en vacances, mais ils ont vendu chèrement leur peau samedi lors du troisième acte de cette série. Transformés après leur déroute mardi dernier à la Halle Saint-Léonard, les Valaisans y ont cru, mais leur manque de rotation a coûté cher en fin de match. Exténués, les joueurs montésans ont été battus 79-75. La saison 2021-2022 s'est donc conclue sur une défaite avec les honneurs pour les Chablaisiens, mais les attentes étaient plus élevées en début de championnat. Le bilan est donc contrasté. Dans ces conditions, l'entraîneur du BBC Monté-Chablais, Patrick Pembélé, sera-t-il toujours là la saison prochaine? Nous lui avons posé la question.
Il faudra qu'on discute aussi parce que quel est le projet? Est-ce que je suis l'homme de la situation? Est-ce que j'arrive à mettre un projet en place? Même si on n'a pas des gros moyens, j'assume l'échec de cette saison. C'est pas un gros échec, mais c'est un échec et je m'en cache pas et j'en suis responsable parce que j'avais le choix sur tous les joueurs. Donc on verra, on devra discuter avec le club où il veut aller, où je veux aller aussi. Honnêtement, il y a des choses que je veux différentes. Maintenant, le club ne peut pas tout me donner, c'est normal et je le comprends.
À noter que nous reviendrons plus largement sur cette saison 2021-2022 du BBC Monté-Chablais samedi dans notre émission La Tablée des Sports. C'était un sujet signé Julien Traxel.
L'actu en continu, radiochablais.ca.